Il est 8h20 minutes et ce matin dans la chronique Les deux pieds sur terre, c'est Katia Gagnon qui est là. Bonjour Katia.
Salut Louis.
Alors parlons un peu de cette deuxième vague. En fait, la question c'est pas de savoir s'il va y avoir une deuxième vague, la question c'est de savoir quand est-ce qu'elle va arriver, hein.
Effectivement, tu as vu en Australie là où c'est l'hiver là-bas, hein.
Oui.
Melbourne, donc ils ont été obligés de reconfiner là, sévèrement la ville de Melbourne. Donc, d'imposer même un couvre-feu le soir. Donc, là-bas, c'est commencé. Et on peut penser que ici, comme tu dis, c'est pas si, c'est quand. À preuve, Radio-Canada, la semaine dernière, a rendu public les résultats d'une espèce de consultation auprès de 170 experts canadiens, là, des scientifiques de tout acabit en matière de santé publique. Donc, dans les deux tiers de ces gens-là nous disent, donc, dans le fond, que c'est très probable qu'on ait une deuxième vague. Et pour certains de ces scientifiques-là, elle est déjà commencée, cette deuxième vague-là, au Québec, parce que, tu sais, si tu regardes les courbes, là, on voit que, par rapport à la fin de juin, on a augmenté un petit peu, c'est reparti un peu à la hausse. Et ce que Mark Goldberg, par exemple, qui est épidémiologiste à McGill, disait à Radio-Canada, c'était que si ça baisse pas dans les deux prochaines semaines, on y est dans cette deuxième vague. Là, c'est pas question de l'attendre, on y est déjà. Or, dans trois semaines, je révèle pas de grandes surprises en disant que les écoles vont reprendre, les cégeps, les universités, les gens vont se rendre davantage au bureau, vont prendre davantage le métro, les rassemblements de 250 personnes et plus sont autorisés. Donc là, on c'est sûr que la transmission, là, il va y avoir davantage de transmission.
Mais il y a aussi des médecins qui s'inquiètent du fait que, entre autres, là, ce sont les jeunes en ce moment qui sont les vecteurs principaux, qui sont les plus touchés par les nouveaux cas de COVID-19. La majorité, ce sont les, je pense, c'est de 20 à 29 ans, là, ou même de 16 à 29 ans. Alors là, il y a des médecins qui se disent, oui, mais ces gens-là, en ce moment, bien souvent, vont travailler dans des camps de jour avec des enfants qui pourraient potentiellement infecter eux-mêmes. Les enfants pourraient transporter ça aussi dans les écoles, infecter les professeurs. Alors, il pourrait y avoir une chaîne là, qui pourrait suivre justement avec cette espèce de vague-là chez les jeunes.
Et cette transmission communautaire-là dont tu parles, parce que c'est ça que tu parles, une transmission de nature communautaire, elle est commencée dans plusieurs régions. Là, si tu regardes les Laurentides, là, cet été, là, il y a eu beaucoup de nouveaux cas, plus en fait dans certaines villes que depuis le début de la pandémie. Donc, tout ça pose la question, Louis, est-ce qu'on est prêt pour cette deuxième vague-là?
Oui.
Et la réponse, j'en ai peur, c'est non. Je pense que moi qu'on n'est pas, on n'est pas prêt. Le premier problème, je te dirais, c'est celui des CHSLD. Les CHSLD, ça a été là qui a été le cœur de la tragédie québécoise de la COVID. Et il aurait fallu rapidement tirer les leçons de ce qui s'est passé là ce printemps. Tommy Chouinard en parlait la semaine dernière sur tes ondes, là. On semble plus très chaud au gouvernement Legault à faire une espèce de, comme on avait promis, une espèce de commission d'enquête.
Ouais.
Donc, il n'y aura pas d'examen sérieux là, de ce qui s'est passé dans les CHSLD. Bon, contrairement, mettons, à ce qui se passe en Ontario, on a mis en place une commission. Bon, la commission ne sera pas publique, mais au moins, là, il va y avoir une espèce de diagnostic d'experts pour comprendre ce qui s'est passé puis possiblement mieux agir. Bon, un bon point pour le gouvernement du Québec, on a des milliers de préposés de plus avec le programme mis en place. On espère qu'on va enfin pouvoir faire ce que la Colombie-Britannique a fait dès le début du printemps, c'est-à-dire interdire les mouvements de personnel. Ça, c'est crucial s'il y a une deuxième vague, il ne faut plus que ça se passe, les gens, les préposés qui vont travailler dans deux, trois endroits, ça n'a pas de bon sens. Le deuxième problème, je te dirais, Louis, c'est l'organisation du réseau montréalais. Donc, on a vu là la semaine dernière que la nouvelle sous-ministre Dominique Savoie, donc, a fait un bilan à l'intention du ministre de la Santé là sur l'espèce de, si tu veux, d'écheveau des CIUS et de la santé publique à Montréal.
Mais c'est tellement compliqué, c'est tellement complexe. On ne sait même pas de qui le DSP relève en réalité. Le DSP couvre plusieurs CIUS, mais en fait relève du CIUS. Alors, c'est extrêmement complexe. Une chatte perdrait ses chatons, là.
Et c'est sur le point, c'est que surtout Mme Drouin, elle n'a pas l'autorité sur l'entièreté du personnel de la santé publique sur l'île de Montréal. C'est ça le problème principal. Dans les CIUS, il y a des gens qui travaillent en santé publique dans toutes sortes de programmes, là, de périnatalité et de prévention et autres. Évidemment, en temps de COVID, ces gens-là ont tous été monopolisés vers la COVID. Sauf que Mme Drouin, elle n'a pas l'autorité sur Donc, les deux tiers de ces gens qui travaillent dans les CIUSSS, qui travaillent en santé publique, elle n'a pas autorité sur ces gens-là. Mmh. Donc, évidemment, ça pose un certain nombre de problèmes dans l'organisation, dans l'opérationnalisation des affaires, comme par exemple, bon, on met en place une clinique de dépistage de la COVID à Montréal-Nord parce que c'est devenu le nouveau secteur chaud. Mais là, c'est compliqué. C'est-tu le CIUSSS? C'est-tu la santé publique? Puis là, on perd du temps, là, puis le temps, c'est crucial dans cette épidémie-là. Alors là, Mme Savoie, elle a fait un bon diagnostic, diagnostic qui est celui que tous les experts ont fait depuis des mois, qu'on a publié dans la presse au mois de mai. Mais là, il me semble qu'on n'est plus à l'étape des diagnostics, oui, là. On est à l'étape de l'action, là. Il faudrait changer des choses. Puis, par définition, dans le réseau de la santé, changer des choses, c'est lent. Hein? Ça va pas vite. Puis là, on est rendu en nous. Et puis la deuxième vague, elle est peut-être déjà là. Donc, ça aussi, je t'avoue que ça m'inquiète. Puis, le troisième problème, ben, c'est celui du personnel et des équipements. Tu sais, t'as interviewé Mme Poirier là, pour oui. Les gens qui travaillent dans les laboratoires, qui analysent les tests. Les gens sont épuisés, puis c'est vrai pour les gens dans les laboratoires et c'est vrai pour les infirmières et les préposés qui travaillent sur le terrain, parce que ces gens-là, ils ont eu 2 semaines de vacances cet été, parce qu'il y avait pas, le réseau n'avait pas moyen de perdre leur service pendant plus que cette période-là. Et là, ils sont fatigués. Donc, on part avec du personnel fatigué et on part avec, bon, des équipements. Ça, c'est l'autre nerf de la guerre, là, c'est les équipements. Donc, on a, le gouvernement dit au début de l'été, on est en train de bâtir des réserves pour 6 mois d'équipement. Le 6 mois d'équipement, là, c'est du stock, là. Hein?
Oui.
Je te donne un exemple bien simple. Ce printemps, là, une journée dans le réseau, il se consommait 3 millions de paires de gants.
Ça
une journée.
Ça fait du gain, ça,
ouais. OK, fait que,
ouais.
Mets ça sur 6 mois, ça fait du gain en tabarouette. Mm-hmm. Hein? Donc là, combien on en a en stock d'équipement? Le Journal de Montréal a posé la question à la mi-juillet. Réponse, on dévoile pas cette information. Bon, premièrement, pourquoi on dévoile pas cette information? Il me semble que c'est une transparence minimale, ouais, que de dire voici où on en est sur une question aussi cruciale. Pourquoi le nombre de masques en stock, c'est un secret d'État? Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Et le dernier problème, Louis, ben, c'est celui qui a été souligné à plusieurs reprises dans les derniers jours, c'est celui des écoles. Donc, le plan de M. Roberge, qui a été rendu public à la mi-juin, ça fait presque deux mois de ça. Il y a des choses qui ont changé entre-temps, beaucoup de choses qui ont changé entre-temps, notamment sur le port du masque.
Oui.
Hein? À la mi-juin, on parlait pas de masque obligatoire, là. Et là, on parle de masque obligatoire dans les endroits fermés. Alors, en Ontario, le plan qui a été sorti oblige le port du masque dans les écoles à partir de la 4e année. Nous, on n'a pas changé nos directives pour l'instant. Et surtout, Louis, le plan, là, il prévoit rien, là, pour... C'est s'il y a une deuxième vague, là, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles?
Ouais, exact.
Qu'est-ce qui se passe précisément? À partir de combien de cas on ferme une classe, une école? Et qu'est-ce qu'on fait avec ces élèves-là? L'année dernière année scolaire, on l'a fini un peu, comme on dirait en chinois, au forçail. Là, hein? On a repatché les trous un peu partout. On a essayé de faire ça comme il faut. Mais là, on a une vraie année scolaire qui commence. Là. Celle-là, elle ne peut pas être faite n'importe comment. Là, mm-hmm. Hein? Alors, il faut qu'il y ait un plan pour faire de l'éducation à distance un vrai plan. Et je rappelle que le ministre avait promis des milliers de tablettes aux élèves qui n'en ont pas, parce qu'il y a plein d'élèves qui n'ont pas d'outils informatiques, ils ne peuvent pas suivre des cours à distance. Alors, où sont-elles, ces tablettes-là? Je ne le sais pas.
Alors, il y a encore pas mal de pain sur la planche. C'est la conclusion qu'on peut tirer.
Effectivement. Bien raison.
Merci, Katia. On se parle demain.
À demain, Louis.
Au revoir.
Bye.
Katia Gagnon. Sur la Couronne Nord, Linda.